Bon, nous reprenons la deuxième session avec un petit décalage, donc. Et je vais donc donner la parole à Jörg Grüner, qui est professeur à l'Université d'Erfurt, en littérature française et espagnole, et qui a fait une recherche doctorale importante sur l'écriture ascétique chez Rousseau et Flaubert. Et c'est, je crois, dans le prolongement de ces travaux sur l'ascétisme, que là il sera question plutôt de Bouvard et Pécuchet et de la question de l'encyclopédie sous la thématique de l'éducation expérimentale, de la forme expérimentale de l'éducation. C'est bien ça?
C'est bien ça. Merci beaucoup de l'invitation et merci de m'avoir donné l'occasion de revenir en quelque sorte sur Bouvard qui m'intéresse depuis un bon moment, comme le sait surtout Jacques Neff. Mais je suis passé par d'autres terrains entre-temps, et là, j'essaie de revenir sur Bouvard et Pécuchet, dans le contexte, je le signale simplement, dans le contexte d'un projet actuel à l'Université de Erfurt, où on est en train de s'occuper un peu de formes d'expérimentation pédagogique dans la littérature au XIXe siècle, surtout. Et c'est à ce propos-là que je vais parler de Bouvard cet après-midi. Le titre a un peu changé, donc vous le voyez sur le handout qui circule. Je vais parler de l'insensibilité révoltante du corps humain, l'éducation expérimentale, dans Bouvard et Pécuchet. Il semble qu'en France, il n'existe pas de Bildungsroman, comme c'est le cas dans la tradition allemande. C'est bien connu d'ailleurs. Rien que la traduction de Bildung de l'allemand vers le français semble difficile, puisque Bildung ne peut pas être traduit tout simplement par éducation ni par formation, ces deux concepts évoquant un dispositif pédagogique dans lequel l'élève est essentiellement l'objet d'une intervention asymétrique venant d'une instance extérieure et non de soi-même. Par contre, la Bildung allemande est, au moins dans une tradition idéaliste, souvent conçue comme une activité sur soi-même, comme un développement progressif de ses propres qualités, où le sujet qui « sich bildet » occupe la place centrale. C'est le travail sur soi auquel on pense souvent si l'on parle du Bildungsroman allemand. Face à ce constat, Rainer Warning a énoncé l'hypothèse que l'absence du Bildungsroman en France serait due au fait qu'en France, il ne se constitue pas, comme dans l'idéalisme allemand, une philosophie du sujet, qui est qu'en point de départ une intériorité positive et bien assurée du sujet susceptible de se former. Plutôt, Warning voit la littérature française, en tant qu'elle traite les questions d'éducation, sous l'influence persistante d'une tradition de la moralistique et ce qu'il appelle une anthropologie pessimiste. D'après cette hypothèse, il est inconcevable qu'un être humain puisse développer tout simplement les talents de sa nature morale innée. Plutôt, le comportement moral serait, depuis Saint-Augustin, jusqu'à la modernité esthétique, toujours régi par une logique de la supplémentarité, qui voudrait qu'une morale substitutive tourne toujours autour d'un vide au cœur de l'homme, qui remonterait en dernière conséquence au péché originel. Cette tradition serait particulièrement présente, toujours selon Warning, dans la littérature française, qui tient la tradition de la moralistique présente et qui déconstruit, ainsi Warning, toute conception optimiste de la Bildung au profit d'un échec toujours renouvelé dans l'éducation de l'homme. Cette tradition s'applique pour Warning également à Gustave Flaubert, dont l'éducation sentimentale est, selon lui, la réponse ironique au Bildungsroman allemand. Le protagoniste flaubertien ne se forme pas, il ne se perfectionne pas, il ne fait que continuer toujours de la même manière, ce qui finit dans ce que le narrateur appelle l'atrophie sentimentale de Frédéric. De la même manière, Bouvard et Pécuchet finit par un autre échec d'une éducation qui ne peut jamais devenir Bildung, mais qui reste toujours un dispositif extérieur que les élèves n'arrivent jamais à intérioriser. Warning a bien remarqué que le plan de Bouvard et Pécuchet, qui indique la conclusion du chapitre de l'éducation, se termine par une remarque sur les deux élèves Victor et Victorine qui ressemblent beaucoup à l'atrophie sentimentale, à savoir leur insensibilité révoltante. C'est la première citation que vous avez sur votre handout. C'est quand ils sont repris par le maire après les mois passés avec Bouvard et Pécuchet. Varning interprète donc, et c'est là que je vais quitter cette interprétation, comme quelque chose qui indique, selon lui, l'abîme entre le positivisme du 19e siècle, en pédagogie ailleurs, et le pessimisme anthropologique qui met en question toute tentative de transformer la nature humaine. Si je traiterai moi-même par la suite également du chapitre d'éducation de Laurent Bouvard et Pécuchet, et si je poserais aussi la question d'une possible anthropologie flaubertienne, il me semble qu'il convient de le faire à partir d'un point de départ un peu moins général et moins restreint au seul domaine esthétique du Bildungsroman. Il s'agit de prendre au sérieux le débat pédagogique auquel Flaubert a recours, sans pour autant se borner à déterminer par un geste positiviste à son tour, simplement les lectures de Flaubert sur l'éducation et la position de celui-ci à propos de ce sujet. Plutôt, il s'agit de voir en quel sens le chapitre sur l'éducation, qui constitue d'un point de vue formel une sorte de mise en abîme du roman entier, condense l'essentiel de la position de Flaubert envers le savoir en général. Ce qui m'intéresse plus particulièrement est de savoir comment Flaubert, dans ce chapitre, met en jeu une méthode expérimentale bien particulière, et qui n'est pas celle contemporaine de Claude Bernard, telle qu'elle est adaptée, comme on le sait, par Émile Zola, mais plutôt celle d'une pédagogie expérimentale telle qu'elle est connue depuis le XVIIIe siècle. En me basant sur une telle pédagogie expérimentale, présente non seulement en France, mais aussi en Allemagne, il n'est peut-être pas nécessaire de partir d'une opposition binaire entre une Allemagne idéaliste, où la Bildung viendrait de l'intérieur, du sujet, une France moraliste où il n'y aurait au fond que l'abîme de l'amour propre. Dans ce cercle de Flaubertien, et je coupe un petit peu, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que le chapitre de l'éducation occupe dans Bouvard et Pécuchet une place très particulière. Dernier chapitre rédigé avant la mort de Gustave Flaubert, et aussi pratiquement le dernier épisode du roman avant que commence le second volume. Le chapitre sur l'éducation constitue un deuxième parcours, au moins partiel, à travers toute une encyclopédie qui a déjà été parcourue par Bouvard et Pécuchet avant. Donc il s'agit effectivement d'une sorte de mise en abîme de ce parcours encyclopédique où Bouvard et Pécuchet, en prenant la qualité de maître, mettent à l'épreuve les différents savoirs par l'intermédiaire de leurs élèves Victor et Victorine. Ce dernier chapitre n'aboutit pas seulement à une espèce de délire de dédoublement. Les deux bonhommes font subir à leurs deux élèves les mêmes épreuves ou presque qu'ils avaient déjà subies eux-mêmes quelque temps avant. En même temps, le passage par le corps de leurs élèves, de leurs disciples, introduit une dimension nouvelle qui m'intéresse ici et qui confère à la pédagogie de Bouvard et Pécuchet un caractère expérimental. Comme vous le savez, le chapitre de l'éducation de Bouvard et Pécuchet commence par le paragraphe suivant, c'est la citation numéro 2 que vous avez sur le handout. Ils se procurèrent plusieurs ouvrages touchant l'éducation et leur système fut résolu. Il fallait bannir toute idée métaphysique et, d'après la méthode expérimentale, suivre le développement de la nature. Rien ne pressait, les deux élèves devant oublier ce qu'ils avaient appris. Le contraste entre idée métaphysique et méthode expérimentale dans ce passage fait tout d'abord penser à ce que Bouvard et Pécuchet adhèrent au credo de la science expérimentale formulé par Claude Bernard. Pourtant, ce qui surprend à première vue dans cette adoption de la méthode expérimentale est la formule qui suit, suivre le développement de la nature. Pour Mitsuma Sabada, qui a rédigé à ce jour le travail le plus important sur le chapitre 10 de Bouvard et Pécuchet et les manuscrits de ce chapitre, le fait que le narrateur fasse allusion à plusieurs reprises à la méthode expérimentale est plutôt un leurre. Je cite, « Malgré l'invocation de la méthode expérimentale, la méthode de Bouvard et Pécuchet n'est pas du tout expérimentale. » Selon Vada, la véritable méthode pédagogique qui sert de toile de fond au chapitre 10 de Bouvard et Pécuchet se trouve plutôt dans les mines de Rousseau directement. Or, je voudrais montrer que la méthode expérimentale de l'éducation négative à la Rousseau et l'éducation négative à la Rousseau ne sont pas, comme le pense Vada, des choses contraires, sinon des pratiques parfaitement conciliables. Ainsi, il est peut-être tout à fait pertinent de se poser la question de savoir si la démarche expérimentale n'est pas plus importante pour Flaubert qu'il ne semble. Notamment dans le chapitre 10 de Beauvoir et Pécuchet. Mais comment exactement réconcilier les deux approches, à savoir la méthode expérimentale et l'éducation selon la nature, l'éducation négative? Selon le chercheur allemand Nicolas Petesch, et qui a fait des recherches sur l'éducation expérimentale à partir du XVIIIe siècle, la pédagogie rousseauiste réunit au moins quelques conditions nécessaires pour mettre en place un dispositif expérimental, longtemps déjà avant Claude Bernard et la science expérimentale au XIXe siècle. Ce dispositif pédagogique et expérimental comporte, toujours selon Peters, les cinq éléments suivants. D'abord, isolation en allemand, l'isolement des élèves, des disciples, la solitude et l'élimination de toute influence sociale. Puis deuxièmement, l'irritation, c'est-à-dire une stimulation des sens ou la suppression d'un stimulus. Troisièmement, l'observation des réactions des disciples face à cette irritation. Quatrièmement, le protocole, c'est-à-dire en allemand protocole, l'enregistrement par écrit de ces observations. Et cinquièmement, l'interprétation de ce qu'on a observé. C'est ce dispositif de l'éducation expérimentale qui produit, selon Petesch, en quelque sorte la figure de l'homme moderne, dans un sens foucaldien, c'est-à-dire comme élément central de l'épistémé moderne. On pourrait dire aussi que l'homme dans l'éducation se constitue en tant qu'objet épistémique. Mais loin de se limiter à constater, comme le fait Foucault, l'apparition et la disparition de l'homme au XIXe, respectivement au XXe siècle, Petesch détermine le lieu généalogique où l'homme a pu naître, à savoir dans la pédagogie expérimentale des Lumières. Sans avoir recours à une continuité sous-jacente d'une anthropologie négative ou pessimiste qui serait toujours déjà à la base de toute anthropologie, Petesch met l'accent sur les pratiques qui produisent en quelque sorte l'homme moderne à travers l'éducation. Rousseau n'en fait pas exception, c'est-à-dire la nature dans laquelle il installe son Émile, et plus tard sa Sophie, est déjà une nature qui obéit d'une certaine manière à un dispositif expérimental. De fait, l'éducation négative dans l'Émile va très au-delà d'un simple laisser-faire. Les situations sont très nombreuses où le maître fait simplement croire à l'élève qu'il agit spontanément. En vérité, l'expérience « naturelle » entre guillemets qu'il fait est une expérience soigneusement préparée, observée et évaluée en secret. Bien sûr, il s'agit là non pas d'une expérience sur un cas réel, mais d'une expérience sur un élève imaginaire, comme c'est dit dans l'Émile. Pour Petesch, la littérature au XVIIIe siècle a la fonction d'anticiper en quelque sorte sur les expériences réelles d'éducation, au moins en tant qu'expérience sur l'homme concret. Ces expériences sont encore rares au XVIIIe siècle, mais autour de 1800, on assiste avec un intérêt croissant au rapport sur les enfants de la nature, tel le fameux Victor de l'Aveyron, qui est confié au docteur Jean Itard. Qu'en est-il maintenant dans Beauvoir et Pécuchet de l'éducation expérimentale héritée du XVIIIe siècle? Rien que les noms des deux élèves, Victor et Victorine, ne sont pas sans rappeler l'élève du docteur Itard. Dans l'avant-propos à la publication de ses rapports et mémoires sur le sauvage de l'Aveyron, Itard commence d'abord par affirmer que, c'est la citation numéro 3 que je ne vais pas lire en entier, que l'homme dans le plus pur état de la nature doit être cherché non dans les civilisations dites primitives, où tous les hommes vivent en communauté, sinon dans les individus qui ont été trouvés vivant isolément dans les bois, où ils avaient été abandonnés dès l'âge le plus tendre. L'isolement naturel du disciple rend celui-ci un objet idéal d'une expérimentation ultérieure, qui chez Itard vise aussi à cinq objectifs. Premièrement, attacher le disciple à la vie sociale. Deuxièmement, réveiller la sensibilité nerveuse. Troisièmement, étendre la sphère de ses idées. Quatrièmement, le conduire à l'usage de la parole. Et cinquièmement, exercer, comme le dit Itard, sur les objets de ses besoins, les plus simples opérations de l'esprit, ou autrement dit, lui apprendre à lire et à écrire. Victor et Victorine, qui sont chez Flaubert les enfants d'un forçat et d'une mère prostituée, sont comparés à de jeunes loups effarés quand Bouvard et Pécuchet apprennent leur nom. Une autre allusion claire aux enfants sauvages ou bien aux enfants loups, si populaires au XVIIIe et XIXe siècle. Malgré leur apparence sauvage au IXe chapitre, quand ils apparaissent, quand ils sont décrits comme ça, ils ne remplissent pourtant pas toutes les conditions de vrais enfants de la nature. Ils savent parler et ont bien été réinsérés dans la vie sociale à la ferme du comte Faverges après l'arrestation de leur père et la mort de leur mère, où la femme du Garchas s'occupe d'eux. Dans les brouillons, Bouvard et Pécuchet regrettent de ne pas avoir affaire à de vrais enfants sauvages. C'est une citation que j'ai oubliée, mais je pense que vous la connaissez. Bouvard et Pécuchet, je cite un manuscrit, regrettent que les enfants parlent déjà. Sans cela, ils feraient des expériences sur l'origine du langage en les isolant. Même si cette idée des expériences sur le langage n'a pas été développée dans le texte final, le caractère expérimental des opérations pédagogiques de Bouvard et Pécuchet sous-tend toute leur démarche. Ils testent sans cesse les conseils de la pédagogie livresse sur les enfants et ne cessent de faire comme s'ils partaient chaque fois à nouveau d'un degré zéro d'expérience, un peu à la manière de la fameuse statue de Condillac. À cet égard, il est révélateur que l'apprentissage de l'écriture fait par Victor chez Bouvard et Pécuchet passe par la même stimulation des sens que chez Littard. C'est la citation 4 que je ne vais pas lire. 4 et 5 d'ailleurs. Si Victor de l'Aveyron semble apprendre l'écriture en associant une chaîne de lettres avec sa boisson préférée, le lait, Victor, fils de Touache, chez Bouvard et Pécuchet, apprend à lire couramment dans le cuisinier français à cause de sa gourmandise, alors que Victorine apprend à écrire parce qu'elle veut obtenir une robe de la couturière. Il s'agit d'ailleurs là d'un des rares succès de la démarche de Bouvard et Pécuchet qui normalement se solde par un échec. Mais non seulement l'isolement relatif de Bouvard et Pécuchet avec leurs enfants en dehors de tout système public d'éducation et l'irritation, c'est-à-dire la stimulation de leurs sens afin de provoquer un résultat déterminé, remplissent les critères de l'expérimentation. Toutes les réactions des enfants sont non seulement observées, mais aussi enregistrées par Bouvard et Pécuchet eux-mêmes, qui se fixent l'objectif de tenir un journal d'éducation. Ce journal devant non seulement servir aux enfants pour passer à la prochaine étape de leur programme, mais aussi à Bouvard et Pécuchet eux-mêmes comme une espèce de cahier de recherche. De là, on pourrait se poser la question, jusqu'à quel point le roman de Bouvard et Pécuchet lui-même ressemble à un cahier de recherche qui dresse le protocole d'une expérimentation, cette fois faite par Flaubert lui-même. En fin de compte, la question de l'expérimentation ne se poserait donc pas seulement au niveau des méthodes mises en jeu par Bouvard et Pécuchet, dans l'éducation des deux enfants Victor et Victorine, mais aussi au niveau de la démarche flaubertienne elle-même. L'encyclopédie critique en farce de Flaubert serait inconcevable comme régie par une méthode expérimentale qui met à l'épreuve le savoir discursif. Si c'était le cas, il s'agirait donc moins d'un texte fictionnel dans le sens courant du terme que d'une mise à épreuve du savoir du monde par le biais de deux figures pratiquement sans corps et sans histoire, destinées surtout à mettre en pratique les contradictions et les pratiques du savoir. L'expérimentation consisterait alors pour Flaubert dans la mise en pratique imaginaire d'un savoir par ces bonhommes, qui n'ont en principe que la fonction de montrer les incohérences et les lacunes. Dans ce sens, tout le roman de Bouvard et Pécuchet pourrait être ce que l'on appelle en allemand un Gedankenexperiment, une expérience de pensée. Je reviendrai sur ça, sur ce point à la fin. Mais avant d'approfondir cette idée d'un double dispositif expérimental à deux niveaux, je voudrais retourner encore une fois à la diégèse du roman, où le Gedankenexperiment cède la place à l'expérimentation empirique sur des corps concrets. Ce qui m'intéresse par la suite est moins le dispositif expérimental en soi que les objets vivants sur lesquels s'exercent ces expérimentations. Dans Bouvard et Pécuchet ailleurs, chez Flaubert, il existe une grande proximité entre l'expérimentation physiologique et l'expérimentation pédagogique. Je vais renoncer à un petit passage sur l'histoire des expériences et de l'expérimentation, des expériences sur l'homme, sur les animaux, dans l'histoire de la médecine, qui serait trop long ici. Mais je crois que ce n'est pas du tout par hasard que si dans Beauvoir et Pécuchet, il y a un lien étroit entre la première partie du chapitre 3, où Beauvoir et Pécuchet s'occupent de la physiologie, et le chapitre sur l'éducation. Le chapitre 3 trace toute une série de corps sur lesquels s'exerce, tout comme dans l'histoire de la médecine au XIXe siècle, de corps sur lesquels s'exerce l'expérimentation physiologique, qui commence par la dissection d'abord d'un cadavre postiche, passe après à l'auto-expérience quand Bouvard essaie de réchauffer la température de l'eau dans une baignoire, pour finir sur un chien galeux. « Toi, mon bonhomme, citation numéro 6, tu serviras à nos expériences. » Fin de la citation. Dans cette curieuse chaîne de suppléments, le corps vivant remplace le corps postiche et l'animal remplace à son tour l'humain. L'expérience sur le chien pour lequel Bouvard et Pécuchet, je cite, « choisir l'aimantation de l'acier par le contact de la moelle épinière », fin de la citation, cette expérimentation trouve son écho lointain dans l'épisode au chapitre 10 où Victor, c'est la citation numéro 7 que je ne dirai pas, où Victor torture un chat en l'enfermant dans une marmite bouillante. Même si Victor ne déclare pas ce qu'il fait comme un procédé expérimental, il est clair que tout comme Bouvard et Pécuchet quelque temps avant, il assouvit le plaisir de voir ce qui se passe si l'on fait ceci ou cela sur un corps vivant. Dans la perspective du lecteur qui connaît les expérimentations faites par Bouvard et Pécuchet au chapitre 3, l'acte de Victor au chapitre 10 évoque le souvenir de l'expérimentation même sans qu'il y ait un cadre scientifique qui en remplisse les conditions formelles. Plutôt, la situation d'expérimentation se fait le noyau du récit d'un événement aussi cruel que spectaculaire. Cette impression de cruauté est due au fait que désormais, ce n'est plus le dispositif scientifique qui s'impose, mais l'expérimentation cède la place à la mise en récit d'un événement. Il s'agit là d'un événement qui est perçu non pas par l'expérimentateur lui-même, mais par un observateur externe, donc il y a un changement de focalisation dans ces épisodes aussi, un observateur externe qui est choqué par ce qu'il voit. Si cette instance dans le chapitre 3 est la vieille servante germaine qui poussa des cris en voyant le chien tout ensanglanté, dans le chapitre 10, ceux qui deviennent pâles de stupéfaction et d'horreur, c'est une citation, sont Bouvard et Pécuchet, qui finiront même par enterrer le chat mort. De la dissection d'un cadavre postiche à l'expérimentation sur des animaux, en passant par l'auto-expérimentation, l'épisode de physiologie, qui est, comme l'ont bien remarqué Bouvard et Pécuchet, le roman de la médecine, brouille de manière systématique les frontières entre l'inanimé et le vivant, entre l'animal et l'homme, dans la disposition des séries d'expérimentations. Ce flou délibéré se poursuit d'ailleurs dans un autre épisode du chapitre 3, quand Bouvard et Pécuchet, qui sont passés à l'histoire naturelle, tentent des alliances anormales entre un bouc et une brebis. Je ne vais pas approfondir ça ici. Les deux bonhommes qui ne comprennent rien à la question de l'espèce, comme dit le narrateur, ou comme ils le disent eux-mêmes, c'est pas tout à fait clair. Donc les deux bonhommes ressemblent dans leur désir de réaliser de telles alliances un autre expérimentateur flaubertien que je vais seulement nommer, dont les actes sont pourtant couronnés de plus de succès, à savoir M. Paul dans le conte Fitfit Voluaris, qui par l'accouplement d'une esclave nègre et d'un orang-outan finit par résoudre un problème de l'Académie des sciences. Citation numéro 8. Savoir s'il pouvait y avoir un métis de singe et d'homme. En passant, soit dit qu'il s'agit là d'un problème qui a été formulé entre autres déjà par Rousseau dans son second discours, même si celui-ci dit que cette expérience est, citation numéro 10, impraticable, parce qu'il faudrait que ce qui n'est qu'une supposition fût démontré vrai avant que l'épreuve qui devrait constater le fait puisse être tentée innocemment. Donc c'est une formule un peu un peu voilée pour dire on ne peut pas faire ça parce qu'il faudrait attendre plusieurs générations pour voir les résultats. Et bon, ça serait quand même une expérience éthiquement peu responsable. Mais il est d'autant plus curieux par l'affaire, cette expérience-là. Ouais. Bien qu'il soit évidemment hors de question de penser, pour le narrateur flaubertien de Bouvard et Pécuchet, qu'un croisement entre homme et singe, question qui avait préoccupé le XVIIIe siècle à la, question de à la suite de Buffon, soit effectivement possible, on trouve une trace de cette idée dans le chapitre sur l'éducation de Bouvard et Pécuchet également. Dans Quidquid Voluris, l'accouplement de l'orang-outan et de la négresse fait naître Djalio, qui déchire l'intérieur bourgeois et parisien du récit en violant à son tour la blonde Adèle qui est promise à Monsieur Paul. Le narrateur décrit dans Quidquid Voluris avec une délectation morose comme en Djalio, citation numéro 9 que je ne dirai pas, moitié homme, moitié singe, dénude, viole et finit par tuer Adèle, qu'il aime sans pouvoir l'exprimer autrement que par cette violence. Retournons à Bouvard et Pécuchet. Donc Bouvard et Pécuchet, la découverte du dépucelage de Victorine par le tailleur bossu Romiche est décrite dans les paroles suivantes. Citation numéro 11 et la dernière. Un spectacle le pétrifia, c'est Bouvard qui voit, Bouvard qui voit. Derrière les débris du bahut, sur une paillasse, Romiche et Victorine dormaient ensemble. Il lui avait passé le bras autour de la taille et son autre main, longue comme celle d'un singe, la tenait par un genou, les paupières entrecloses, le visage encore convulsé dans un spasme de plaisir. Elle souriait étendue sur le dos. Le bâillement de sa camisole laissait à découvert sa gorge enfantine marbrée de plaques rouges par les caresses du bossu. Ses cheveux blonds traînaient et la clarté de l'aube jetait sur tous les deux une lumière blafarde. Dans la comparaison de la main de Romiche avec celle d'un singe, et plus particulièrement avec ce demi-singe qu'est Djalio, s'inscrit dans cette scène tout à fait mélodramatique la trace d'une expérimentation sur le corps de la fille, vue de la perspective de Bouvard qui est témoin oculaire de cette scène un matin de très bonne heure. Voici encore une autre scène d'expérimentation, ou qui a son origine dans une expérimentation, qui échappe au contrôle de Bouvard et Pécuchet. Le regard froid de celui qui contrôle le dispositif expérimental lui-même, avec l'intention de produire une alliance anormale, cède la place à l'horreur à chaud de celui qui constate qu'une telle alliance vient de se produire de manière fortuite et pathétique. J'arrive à la conclusion. J'ai essayé de montrer que par sa démarche expérimentale très particulière de Bouvard et Pécuchet, Flaubert, on pourrait le dire avec Barbara Finken, barre en quelque sorte une conception de l'homme moderne. Le revers de la médaille de l'homme moderne chez Flaubert n'est pourtant peut-être pas le sans-fond de l'âme moralistique, mais une remarquable, c'est ce que je dirais, inertie du corps et de l'âme humaine qui résiste à toute tentative d'éducation, de dressage et même d'expérimentation. Je pense que les corps de Victor et de Victorine ne sont pas forcément marqués par le péché originel, même si c'est si on discute ça dans le roman. Ni peut-être ce serait l'autre option de marquer par une hérédité, ça aussi c'est une option que Bouvard et Pécuchet énonce dans le roman. Mais ce qui me semble fascinant, c'est plutôt leur résistance fabuleuse à toute tentative d'influer sur leur corps. La réaction des deux élèves quand ils sont séparés de Bouvard et Pécuchet à la fin du dixième chapitre que j'ai cité au début semble exemplaire à cet égard. Ils montrent une insensibilité révoltante. Tout comme Victor de l'Aveyron, ils déçoivent toute tentative d'éducation, soit par une éducation négative, soit par une autre positive. La cause n'en est pas qu'ils soient idiots, mais qu'ils restent toujours identiques à eux-mêmes. Ils manifestent une résistance fabuleuse du corps à l'éducation, qu'elle soit physique ou morale. Ainsi, ils sont bel et bien des enfants de la nature, sauf que leur nature a cessé d'être la bonne nature de Rousseau, sans pour autant être une nature déchue depuis le péché originel, ou bien marquée par une dégénérescence héréditaire. Victor et Victorine ont hérité de pouvoir épêcher ce corps inébranlable qui, sujet à tout type d'expérimentation, ne change jamais. Comme le mannequin postiche au début du troisième chapitre, qui devient en quelque sorte le modèle de l'homme en général dans l'encyclopédie en face flaubertienne. Bouvard et Pécuchet incarnent ce corps inaltérable à travers toutes leurs épreuves, au moins jusqu'au dixième chapitre. C'est pourtant là qu'on est témoin d'un changement qui ne concerne pourtant pas leur corps propre, sinon leur position d'observateur. C'est qu'en tant qu'observateurs externes de scènes qui sont également issues de configurations expérimentales, mais qui ne contrôlent pas eux-mêmes, que Bouvard et Pécuchet développent une sensibilité différente. Cette sensibilité ne s'identifie pas à la position du sujet de l'expérimentation, mais à celle d'un objet souffrant, le chat torturé ou bien Victorine dans les bras de Romiche. En fin de compte, Bouvard et Pécuchet sont affectés par les résultats de leur propre dispositif expérimental, si ridicule que cette affection puisse paraître. Il se peut, et j'arrive vraiment à ma conclusion, que la mise en scène, ou plutôt la mise en récit effective de son propre plan expérimental affecte Flaubert de la même manière que Bouvard et Pécuchet sont affectés par le sort de leurs élèves. Les bonhommes inventés par Flaubert afin de servir à ses expériences en tant que dispositif anthropomorphe d'essai, crash test dummies, finissent au moins de temps en temps par l'entraîner lui-même dans le mélodrame du savoir quand il est mis en pratique. Lui qui se veut aussi incorporel, aussi immunisé que ces deux bonhommes contre la bêtise des discours, s'en imprègne pourtant à fond quand ces discours le retrouvent sous forme de récits spectaculaires ou catastrophiques. L'homme, pour Flaubert, c'est peut-être cela, un mannequin irritable, voué à la bêtise, mais capable, à partir de là même, de grandes effusions sentimentales. Merci.
Merci beaucoup pour ce bel exposé qui soulève tout un tas de questions passionnantes. L'idée de structure fractale, finalement, hein, de Bouvard et Pécuchet qui serait dans chaque... au moins dans ce chapitre sur l'éducation, une mise en abîme de l'ensemble est évidemment séduisante. Mais alors, c'est peut-être pas seulement Flaubert qui serait l'objet de cette éducation, mais le lecteur lui-même. Mmh. Ah, oui. Peut-être qu'il y a quelque chose comme une expérimentation de ce que le lecteur va subir comme transformation expérimentale à la lecture de Bouvard et Pécuchet. Ça, c'est une chose qui traverse quand même beaucoup l'esprit. Si on suppose que le second volume à venir aurait été comme une sorte d'anti-manuel pratiqué par l'élève qu'est le lecteur du premier volume. Mmh.
Tout à fait.
Bah, bon, mais c'est certainement une question fondamentale sur les... Eh bien, on ouvre les questions. Françoise Gaillard.
Mais c'est tout à fait passionnant, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y en a une, c'est la seconde que je voudrais questionner avec vous. Bon, d'une part, il y a le problème évidemment des différents systèmes pédagogiques et la question de l'expérimentation. Et là, on voit bien que c'est dans l'air du temps, y compris dans la médecine expérimentale, et tout ça, etc. Mais il y a surtout la mutation de la conception de l'enfance. L'enfant n'est plus ce que Rousseau a voulu nous faire croire qu'il était, à savoir tout est bon sortant des mains du créateur, c'est-à-dire une espèce d'innocence naturelle, et on va découvrir au XIXe siècle, et ça je crois que c'est fondamental, qu'il y a une sauvagerie au cœur de l'enfant. Freud ensuite le théorisera, Freud est un homme de son temps, et après le théorisera sous la forme du pervers polymorphe. On le trouvera évidemment chez Louis dans Sa Majesté des Mouches. Enfin, il y a un très grand nombre de textes, surtout dans le dernier tiers, mais aussi dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le dernier tiers, on en trouve, la liste est énorme, où on voit que ce qu'il ressort, hein, c'est cette sauvagerie, c'est cette espèce de nature, et ça n'est pas lié à la chute, c'est pas lié au péché originel, c'est véritablement la découverte de cette sauvagerie primitive. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental, parce que c'est ça qui est interrogé, c'est pourquoi tout d'un coup, enfin, j'ai une idée, mais je ne vais pas l'exposer, ne vous inquiétez pas, pourquoi on a basculé de cette conception de l'innocence, hein, a, au contraire, cette espèce de sauvagerie naturelle. Et que l'éducation est faite justement pour remédier à cela, pour essayer la civilisation, l'éducation, etc., c'est contrôler à cela. Alors, deuxième point, mais ça, je ne développe pas, parce que c'est une texte qui m'avait passionné, qui apparaît de manière étrange dans le bruit de Bolognese, qui est quand même écrit avant le darwinisme. Ça va être l'idée après, après le darwinisme, la deuxième moitié du 19e siècle, quand on va se demander quelle est la différence entre l'animal et l'homme, la question va être de savoir s'il peut y avoir croisement entre des espèces animales et des espèces et l'homme, ce qui serait la preuve d'une parenté, à condition d'ailleurs que le produit de ce croisement puisse se reproduire. Bon, et ce qui est étonnant chez Flaubert, comment cette intuition qui est très darwinienne, ce qui est quand même très troublant. Alors, ça va être la grande question qu'on va trouver, le croisement, etc. Tout ça aussi chez Delacorte, les animaux dénaturés, etc. Et moi, la question, c'est l'innocence, le passage de la conception d'innocence à la conception de cette sauvagerie.
C'est juste... après, enfin, on n'a pas cru que les enfants furent innocents en
18. Non, non, Rousseau, je dis Rousseau.
Rousseau, oui.
Peut-être juste une remarque pour la deuxième question. Donc, ces expériences d'accouplement ou de croisement entre hommes et notamment orang-outan, ça existe bien déjà au XVIIIe siècle. Donc, on discute la question de l'espèce à partir de Buffon, et je crois que c'est plutôt inspiré de ça chez Flaubert encore. Simplement une remarque là-dessus. Sinon, pour la sauvagerie, oui, effectivement, la sauvagerie, ou peut-être plutôt c'est qu'elle change de connotation, parce que la notion de sauvage existait bel et bien chez Rousseau, mais elle change quand même de sens et de connotation. Pourtant, j'étais frappé de voir dans la correspondance de Flaubert les nombreuses références à Rousseau qui persistent chez lui. Donc, et c'est un peu à cause de ça que j'ai insisté un peu sur cette tradition rousseauiste de la pédagogie, sur cette tradition aussi de guitare, etc. Et même au moment de la rédaction de Bouvard et Pécuchet, il y a ce passage où il dit que la nature fait tout ou presque. Donc, il restera à savoir quel type de nature c'est. Hein. Voilà. Et juste une dernière chose, je crois que ce que, par rapport à l'histoire de l'éducation au XIXe siècle, c'est quand même l'époque de l'école commune, etc., etc., Flaubert maintient l'isolement des enfants. Et ça me semble être un point capital.
Rousseauiste. Rousseauiste, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les nombreuses allusion à Rousseau et la présence certainement très forte du modèle de l'Émile ne sont pas chez Flaubert contrebalancées par la présence souterraine fondamentale de Sade, de cette nature sadienne qui est ce dont on parle, c'est-à-dire un déchaînement de violence inné qui est la loi profonde de la nature selon Sade. La satisfaction immédiate du désir au mépris de la sauvegarde des autres, c'est quand même chez Flaubert depuis l'adolescence une référence constante, évidemment très peu exprimée, mais constante. Je pense que son intérêt pour Rousseau est construit autour d'un Rousseau contrebalancé par le Marquis, véritablement. Et d'une façon qui va au moins aussi loin que ce que Bataille proposera. Il y a dans l'ordre, il y a d'abord une question ici, ensuite Barbara et ensuite Marie. Et puis, enfin.
Oui, alors tout d'abord, peut-être l'innocence chez Rousseau ne va pas trop loin, parce que les premiers mouvements de la nature sont droits, mais quand il y a quelque chose qui intervient, les mouvements ne sont plus droits, tout a changé. Mais la question que j'aimerais poser, c'est évidemment, Flaubert, c'est toute une tradition d'expérimentation avec l'enfant et tout cela, mais il y a quand même un courant qu'on pourrait peut-être suivre, le courant qui dit à partir de la Renaissance que la nature humaine peut être quelque chose, pour citer Shakespeare, Nature en vous, nature, vous, never speak. C'est l'expression de le Prospero à propos de Caliban. Mmh. Et il y a dans les années, je pense, 70, du 19e siècle, il y a une pièce de Renan, Caliban, où il reprend ce thème. Donc, il se pourrait peut-être qu'il y ait là quelque chose comme un topic qu'on peut utiliser dans cette discussion avec les expérimentations pédagogiques à partir de.
Ouais, donc, éventuellement, ça nous remettrait sur la question de, disons, de la nature sauvage aussi du cochon, en quelque sorte. si on énonçait l'hypothèse d'une nature de base qui ne peut pas être changée et qui apparaît, par exemple, aussi dans la correspondance flaubertienne. Moi, ce qui me frappe dans Beauvoir et Pécuchet, c'est quand même ce caractère, et peut-être c'est un aspect sadique aussi, ce caractère inébranlable du corps, sur lequel on peut tout faire, et qui reste toujours identique à soi. Donc, Beauvoir et Pécuchet, dans ce sens-là, ne sont que des vecteurs d'expérimentation, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si c'est déjà le cas dans ces types calibanesques, mais je crois qu'il y a peut-être encore une différence entre une nature de Caliban et une nature de ce mannequin postiche, en quelque sorte. Mais je ne sais pas.
Barbara ?
À ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, cette espèce de. Je ne sais même pas si c'est la nature, c'est plutôt la bestialité. Mmh. Et ce qui est frappant dans Flaubert, c'est qu'il montre en fait que l'expériment scientifique peut être ce qui est de plus bestial dans l'homme. Mmh. Et donc oui. Là, il y a, et je crois que là, ça tourne autour de cette question de l'expériment, la bestialité de l'expériment, et tous les exemples tournent autour de ça. C'est-à-dire que plutôt dans la veine sabienne, mais très clairement contre les lumières, c'est la raison même, c'est-à-dire la volonté de savoir même, qui devient, au sens le plus vrai du terme, bestial.
Peut-être même.
Ensemble les deux interventions de Barbara et de Françoise, peut-être qu'il s'agissait moins de la sauvagerie et plus de la question de c'est quoi la nature, c'est quoi quelque chose de naturel pour un animal, pour un enfant, etc. etc. Et tout le texte, me semble-t-il, pose la question que la nature, est-ce naturelle ? Et il y a beaucoup de discussions sur l'hybridité, alors des expériments où on met ensemble les parties des animaux, etc. Et j'oublie la citation exacte, mais dans Le Voyage en Corse, il y a aussi une très belle description de la vie sauvage, de la nature, et là-dedans, il y a une discussion de l'hybridisation des animaux. Mmh. Et donc, on met en question tout le temps, c'est quoi la nature, c'est quoi la reproduction naturelle.
Oui, effectivement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un peu éludé cet aspect de l'expérimentation sur l'homme, mais bien sûr, Flaubert a une manière très spéciale de parler de la nuda vita, des expérimentations sur l'homme qui ont été toute une série de l'histoire qu'on connaît. Et je trouve effectivement qu'il y a une certaine, qu'il y a une bestialité qui ressort de ces expériences, bien qu'elles soient même, ou justement parce qu'ils sont pratiqués par des idiots, des enfants, etc., qui est fabuleuse, qui est délirante.
Nous le lons au début du texte, alors ce sont des plantes exagérées, monstrueuses, mais quand même, ce sont des plantes tout à fait naturelles.
Ce qui est compliqué, chez Flaubert, on trouve à la fois une sorte de d'antirpositivité qui est un peu un rêve du XVIIIe siècle dans la nature et dans toutes ses capacités d'invention, de dissémination, de croisement, d'hybridation. Et Le Voyage en Corse, c'est quand même vraiment du côté de la joie, du côté du bonheur. Et il y a aussi cette figure sombre, noire, dont on parle, qui, comme Barbara disait, au fond, est-ce que ce n'est pas surtout une remise en cause de la science? C'est-à-dire, est-ce que toutes ces expérimentations scientifiques n'ont pas pour état premier la volonté sauvage, sadique, de voir ce que ça va faire, tout simplement? Il y a quelque chose qui doit avoir rapport aussi avec le regard sur les cadavres du petit Flaubert, avec sa sœur, qui a passé quand même son enfance à être au contact de la mort, de la folie, de l'expérimentation qu'il ne comprenait pas véritablement. Mais c'est quand même deux faces un peu incompatibles, hein, des choses. Quoi. Mais la mise en cause de la science comme pratique sadique est probablement quelque chose d'assez propre à Flaubert et d'assez étrangement contemporain, enfin pour nous, en tout cas qui résonne très fortement avec... parce que son prolongement, c'est la compassion pour les animaux, c'est-à-dire un rapport au monde animal qui est peut-être pas le seul à son époque, mais dans lequel il investit énormément. Alors, nous avons encore une demande de Paul, Petitier.
Sur la discussion sur l'enfance et le changement de pôle de l'innocence vers au contraire la sauvagerie, ce qui me frappe dans les extraits de Gouard et Péluchet, c'est plutôt que ça va jusqu'au déni de l'enfance. Mmh. Victor et Péluchet ne sont pas des enfants. À chaque fois, il y a un détail. Victor, à propos de son. Quand il est bouillant le chat, puisqu'il est à moi. Il parle comme le fermier pour son cheval, il est toujours. Et Victorine et Romiche, l'accès bisexuel de Victorine prouve là encore qu'elle est une femme, comme quand on lui apprend à écrire, robe. Donc c'est l'idée même d'une spécificité de l'enfance, d'un esprit enfant et donc qui est capable justement de se construire. Oui. Hein. Oui. C'est cette épigoune que vous avez parlé au début qui est remise en cause à travers cette présentation des enfants qui ne sont à aucun moment des enfants.
Ouais. Par rapport par rapport à ça, je trouve qu'ils sont rigoureusement les doubles de Poiret et Pécuchet, qui n'ont pas d'évolution, dont le caractère n'évolue pas non plus.
Et puis la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce que Pierre-Marc, ce sur quoi tu insistais ainsi que d'autres intervenants, c'est qu'il y a tout de même aussi à l'arrière-plan, évidemment, le contexte politique. L'échelle de l'éducation, c'est pas seulement de l'expérimentation, c'est pas seulement l'expérimentation scientifique, c'est aussi l'expérimentation dans sa dimension humaine et politique. C'est-à-dire que les tentatives républicaines d'éducation du peuple.
Il n'y a pas de progrès moral.
Voilà.
Et par rapport à ta remarque sur l'enfance, c'est assez compliqué parce que. C'est quoi l'image de l'enfance exactement à une époque où on envoie les gens à l'usine à 12 ans. Ne reportons pas sur...
Mais attends, il y a, au XIXe siècle, il y a tout de même toute une
situation.
À la fois la logique de Stalin,
mais comment d'où vient-il? Comment se constitue-t-il?
L'enfant, c'est une sorte de maladie presque ordinaire. Avant, il devient adulte. C'est un passage, et ce qui est intéressant, c'est l'adulte. Dans les romans, on les prend quand ils sont nés, etc. Mais au fond, on parle pas de la manière dont ils ont joué avec leur poupée, leur machin. Et ça commence quand ils ont 18-19 ans. Donc le problème, c'est avec Rousseau. Et je suis pas d'accord avec toi parce que quand il dit il y a une innocence, parce que dans les confessions, il montre bien que s'il commet des actes que l'on peut juger répréhensibles, c'est à cause de la société. Le CEO avec les gens qui avec lui, il aurait confessé, avoir volé le ruban, etc. C'est la société, il y a une innocence première.
Enfin, c'est pas la société qui le fait bander sur les cuisses de madame, de maman. Quoi.
Elle avait pas le droit de fessées, non.
C'est pas seulement ça. D'autres questions ? Bon, ben, nous vous remercions.
Merci. Merci à vous.